Eh bien, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, parce que certains d'entre vous, ben, je vous connais bien, d'autres pas du tout. Et voilà, je me présente en deux mots. Eh bien, effectivement, je suis, jusqu'à la fin de ce mois, animatrice pour les GBEU, donc Groupe Biblique des Écoles et Universités. Et en ce qui me concerne plus particulièrement pour les U, donc les GBU, c'est ce qui touche à l'université et les HES. À part ça, je suis mariée, j'ai trois garçons adolescents, et mon mari est pasteur à l'église La Rive Droite, de l'église libre, paroisse La Rive Droite. Il y a quelque temps de cela, mes amis et moi avons pris notre bateau pour naviguer sur le lac. Nous avions besoin de nous reposer, de vivre un moment de détente entre nous. Dans les fêtes, ça a plutôt été houleux parce qu'on a essuyé une sacrée tempête qu'on n'avait pas vue venir et on a sérieusement cru qu'on allait y passer. Et ça, figurez-vous que ce n'est pas le plus étonnant qui nous soit arrivé. Une histoire bizarre, telle que je n'en avais jamais vécue auparavant, est survenue à peine quelques heures après cet épisode, pour le moins éprouvant, de la tempête. Nous avons débarqué dans un pays dans lequel je ne m'étais encore jamais rendue. La plage n'était pas très large, ni très profonde, faite de minuscules galets blancs. Autour de nous, des petites montagnes grises, des falaises même, et des grottes dans les rochers, rendaient le paysage assez spectaculaire. Nous étions épuisés et souhaitions prendre le temps de nous reposer et de nous restaurer quelque peu. Avec les forces qui nous restaient, nous avons lentement suivi un étroit sentier qui nous mena entre d'énormes pierres jusqu'au sommet d'une falaise. Une brise douce nous accueillit. Or, à peine arrivés sur cette hauteur, nous vîmes une étrange créature accourir à notre rencontre. Elle zigzaguait entre les pierres presque ventre à terre. C'était la première fois que je voyais un tel homme. Il descendait au milieu de rochers élevés, tel une chèvre des montagnes, rapidement, sans crainte de tomber ni de se blesser. Et pourtant, il était couvert de sang et il était nu. Il portait des entraves brisées à ses chevilles et des anneaux épais à ses poignets, comme de gros bracelets métalliques auxquels étaient encore attachés quelques maillons de chaîne. Les rochers par lesquels il descendait recelaient des tombeaux, des gros trous dans lesquels des tombes étaient enfouies. Cet homme ensanglanté de partout était hirsute, les yeux exorbités. Il semblait avoir une force hors du commun et grognait sinistrement. Il avait l'air d'une bête. Il se dirigea intentionnellement vers notre maître, comme s'il savait que c'était lui le maître, comme s'il le connaissait. Mes amis et moi avons tous eu peur. Nous avons reculé, nous sommes regroupés, glacés de terreur, ne sachant que dire, encore moins que faire. Jésus, notre maître, lui, ne semblait nullement partager notre frayeur. Il alla au-devant de l'homme et lui dit posément et fermement, « Sors de cet homme, esprit impur !» L'homme se jeta aux pieds de Jésus et d'une voix étrange et froide, cria avec force, « Que me veux-tu, Jésus ?» Fils du Dieu très haut, au nom de Dieu, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Je perçus à la fois du désespoir et de l'ironie dans cette interpellation. Jésus n'aimait pas du tout que les démons déclarent son identité, ça m'avait toujours frappé. Il leur interdisait de parler. Je ne comprenais pas le sens des paroles de cet homme. Et voilà que Jésus lui demanda quel était son nom. D'une voix disharmonique, multiple comme le bruit d'une cavalcade désordonnée, l'homme répondit « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Je t'en supplie, ne nous envoie pas hors du pays. » La voix devint aiguë et continua « Il y a là-bas des porcs, laisse-nous entrer en eux. » Jésus le leur permit. Je n'avais jamais entendu pareil dialogue. Comment Jésus pouvait-il dialoguer avec des démons et accéder à leurs supplications? Qu'est-ce que c'était que cette histoire de démons et de porcs? Pouah, des esprits impurs et des animaux impurs, c'était dégoûtant. L'homme fut soudain pris de convulsions. Il se tordit de douleur, se roula dans la poussière du sol et hurla de toutes ses forces. Presque au même moment, les porcs en haut sur la colline se mirent à couiner frénétiquement et coururent comme des fous dans la montagne où ils cherchaient leur nourriture. Ils se rapprochaient inexorablement du bord de la falaise. Je n'en croyais pas mes yeux. Et telles des bêtes aveugles, malheureuses et stupides, s'élancèrent dans le vide et furent précipitées dans le lac. Il y en avait environ 2000. 2000 porcs se noyèrent en un bref instant. C'était incroyable, la scène était horrible. Les flots remplis de cochons morts noyés offraient une vision cauchemardesque et répugnante. Les gardiens du troupeau se mirent à crier et partirent en courant dans tous leurs états, probablement vers les villages. Malgré cet épisode étrange, Jésus ne semblait manifestement pas très concerné par la scène des porcs. Il alla vers l'homme, à présent couché par terre, tremblant et pleurant. Il avait perdu toute rage et ses yeux étaient devenus clairs. Il n'avait plus ce regard tourmenté qui m'avait épouvanté auparavant. Jésus le toucha et lui caressa la tête. Il l'embrassa. Il nous demanda de l'eau et se mit à laver ses plaies et son visage et nous dit de le vêtir et de le nourrir. Nous fîmes ce qu'il nous avait ordonné, un peu à contre-cœur quand même, parce que cet homme nous avait fait très peur. Il reprit rapidement courage et la joie commença à l'envahir. Il était libre, enfin libre, après un esclavage dévastateur et destructeur. Il riait de bonheur et ne cessait d'embrasser les pieds du maître libérateur. Peu de temps après, les gardiens du troupeau revinrent, accompagnés des gens de la ville et des campagnes. Ils avaient tous l'air très courroucés. Lorsqu'ils virent l'homme démoniaque, habillé, assis et plein de bon sens, leur colère se changea en frayeur. Ils prirent conscience que quelque chose les dépassant complètement avait eu lieu en leur absence. Cet homme qu'ils liaient et attachaient sans scrupule avec des chaînes, cet homme qui, par sa force surnaturelle, brisait les entraves et déambulait au milieu des tombeaux, se blessant, se mutilant lui-même. Cet homme nu, à l'état d'animal sauvage, cet homme qui n'était plus un homme, était assis là, devant eux, calme, vêtu, présent avec son esprit. Il n'était plus un aliéné, il n'était plus un démoniaque. Il était libre, digne, guéri. Les gardiens du troupeau prirent alors la parole et se mirent à raconter avec force détail ce qui s'était passé. Comment l'homme s'était jeté aux pieds de Jésus, comment Jésus avait parlé aux démons, comment ceux-ci s'étaient enfuis de l'homme pour entrer dans les porcs, et comment les porcs affolés s'étaient mis à courir dans la même direction et s'étaient jetés en bas de la falaise dans le lac. Les propriétaires des porcs n'apprécièrent pas du tout la fin de l'histoire, surtout lorsqu'ils virent le désastre épouvantable d'une mer de cochons noyés. Ils commencèrent à invectiver Jésus. Comme celui-ci ne bronchait pas, ils se mirent à le supplier de s'en aller. « Va-t'en avec tes amis. Tu ne nous as causé que du trouble, des frayeurs, des choses pas normales, de la magie. Tu as fait mourir nos porcs. Comment allons-nous vivre à présent? Va-t'en d'ici, quitte notre pays. Tu es un étranger. Retourne chez toi avec tes amis. » Nous ne voulons pas de toi. » Jésus, sans mot dire, humblement mais dignement, s'en retourna par où il était venu et se dirigea vers le rivage où notre barque était restée échouée. Nous le suivîmes de près. L'homme libéré, voyant Jésus s'en aller et ne comprenant pas la frayeur de ses compatriotes, se leva d'un bond et lui courut après. « Maître, maître » cria-t-il au moment où Jésus embarquait. Il lui mit la main sur le bras pour l'arrêter et se mit à le supplier. « Prends-moi avec toi, je t'en prie. Laisse-moi venir, je te servirai. Je veux être ton disciple. » J'étais heureux au fond de moi. Voilà un homme reconnaissant de ce que Jésus avait fait pour lui et qui ne demandait qu'à le suivre. Bien sûr qu'il y aurait de la place pour un tel homme dans notre groupe. Cela ne faisait aucun doute. La réponse de Jésus, par contre, m'emballa nettement moins. Et me surprit. il ne lui permit pas de le suivre. Comment ? Vraiment, j'avais de la peine à comprendre mon maître parfois. En scrutant le visage de mes amis, je m'aperçus qu'il en était de même pour eux. Comprendrions-nous un jour ce Jésus tellement étonnant ? Il dit à l'homme, « Retourne chez toi, va dans ta maison, parle à ta famille, à tes voisins, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Un silence se fit. Puis, contre toute attente, le visage de l'homme s'éclaira et se fendit d'un large sourire. Il embrassa les mains de Jésus, le remercia et partit en courant. Plus tard, bien des mois après ces événements, nous avons appris que la Décapole, le pays païen où cet homme habitait, avait entendu l'annonce de la bonne nouvelle que Jésus avait changé sa vie. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre parmi les Gadaréniens. Et tous étaient dans l'étonnement. Le contexte plus large dans lequel s'inscrit cette histoire de l'évangile de Marc, au chapitre 5, versets 1 à 20, peut se résumer ainsi. Jésus maîtrise les éléments naturels, spirituels, la maladie et même la mort. Jésus est celui par qui le royaume de Dieu arrive sur terre. C'est parfois très spectaculaire, et parfois c'est aussi insignifiant qu'une minuscule graine de moutarde. Tu peux mettre. Les versets 1 à 5, et en particulier 2 à 5, sont étonnamment détaillés pour un texte biblique. Jésus est face à un homme possédé. Le but de tous ces détails au début de l'histoire est de nous faire comprendre que la situation de cet homme est vraiment terrible, très grave. Cet homme n'est plus un être humain qui va bien, ni même qui va tout court. Au contraire, il va mal. Il va très mal, il est abîmé, déchu de sa dignité humaine. C'est un homme détruit. Il ne vit plus une vie d'homme. Tu peux passer la suivante. Voilà ce que c'est que d'être livré aux forces démoniaques. Le texte nous permet de comprendre le but du diable, c'est la destruction. L'image de Dieu qu'est cet homme est sérieusement tordue et pervertie, moquée. Je vais passer la suivante. Et on peut bien penser que Jésus, en acceptant que les démons entrent dans les ports, permet que soit dévoilée la nature réellement maléfique de ces esprits. Les porcs, animaux impurs selon la loi juive, mais néanmoins créatures de Dieu, sont immédiatement tués. La volonté et la puissance destructrice de Satan sont mises en lumière. Son but ultime est de détruire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de mal qui soit un petit peu mal, mais quand même pas trop. Le mal est absolument et totalement mauvais. Jésus ne fait pas de faveur aux esprits méchants en leur accordant d'aller dans les ports, mais il dévoile la nature radicalement mauvaise de ces esprits. Les versets 14 à 17 nous parlent de la réaction des habitants de ce pays. Ils entendent deux fois l'histoire. En voyant l'homme anciennement possédé dans son bon sens, ils sont effrayés. La transformation de l'homme est si radicale que le miracle produit en eux de la crainte. Non pas la crainte de Dieu qui est juste et bonne, mais la peur tout court. Ils ne veulent pas de cette puissance si grande chez eux. Ils s'étaient accommodés à la puissance démoniaque, mais à une plus grande puissance capable de chasser les démons, ça, non, c'est trop leur demander. Au point qu'ils supplient Jésus de quitter leur pays. Et là, voyez-vous, ces gens font une grande erreur. Ils sont sans doute mécontents, en effet, d'avoir perdu leur gagne-pain que représentaient ces cochons, on est d'accord, même si le texte ne dit rien à ce sujet. Mais ils ne reconnaissent pas la bonté ni l'autorité souveraine de Jésus. Alors qu'ils ont de quoi voir sa bonté et sa puissance, contrastées avec la méchanceté et la puissance mauvaise des démons, ils tremblent de peur. Que dire? Jésus n'est-il pas injuste envers les gens de ce pays? Mais non, le salut est pour eux, car Jésus est venu dans leur pays alors qu'ils ne sont pas juifs. Il est venu libérer un homme gravement possédé. Et s'il en sauve un, le pire, il peut les sauver tous. Leurs porcs sont morts. Mais ils auraient pu, ils auraient dû demander à Jésus de les secourir, de les sauver de cette situation calamiteuse. Or, ils ne le font pas et le supplient de partir. Ah, ils ont pourtant les moyens de savoir que Jésus a libéré l'homme et que les porcs sont morts à cause des démons, pas à cause de Jésus. Tu peux passer la suivante. Dans les versets 18 à 20, Jésus écoute la supplication des démons et des habitants, mais pas celle de l'homme délivré. C'est quand même un peu choquant, vous ne trouvez pas? Pourquoi ça? Au début de l'histoire, on voit que cet homme a manifestement besoin du salut, et il le reçoit. Il est sauvé du mal qui l'assaillait totalement. Les habitants du pays, qui ont aussi besoin du salut, même si ça se voit peut-être un peu moins, rejettent Jésus, car ses pratiques étranges les effraient. Et ils ne se soumettent ni à sa bonté, ni à sa puissance, son autorité souveraine. La réaction de l'homme libéré est radicalement différente de celle de ses compatriotes. Il est plein de zèle. Et sa demande d'accompagner Jésus est en fait comparable à lui demander de devenir son disciple. Mais la réponse de Jésus, quelle réponse ! Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Jésus ne fait pas moins que de l'envoyer en mission. Il l'envoie raconter auprès des gens qui lui sont proches ce que le Seigneur a fait pour lui. La libération, la restauration, la recréation en image de Dieu. Et finalement, dire qui est le Seigneur. Dire comment le Seigneur a eu pitié de lui, c'est dire qui est le Seigneur. C'est dire que Jésus est le Seigneur. Qu'il est compatissant, bon, bienveillant. Que son amour pour un seul homme, même un homme dégradé, et considéré comme un rebut par la société, dépasse toute chose. C'est dire qu'il est puissant, plus puissant qu'une légion de démons. C'est raconter une très très bonne nouvelle. L'homme est allé, il a parcouru son pays, la Décapole, et il a raconté. Et tous étaient dans l'étonnement. Bien sûr, vous me direz que Mérin, Genève, la Suisse, la France, le Québec, ce n'est pas la Décapole. C'est bien pire. Nous savons que cet envoi que Jésus adresse à l'homme libéré et qu'il adressera à tous ses disciples par la suite, et donc à nous aussi, eh bien, nous concerne toujours. Nous cherchons parfois la méthode d'évangélisation infaillible. C'est très simple, il n'y en a pas. Mais je souhaite relever quelques points que j'ai appris. Notre culture doit être lue et comprise. Alors c'est parfois difficile parce qu'on est tels des poissons qui nagent dans l'eau et qui ne savent pas ce que c'est que l'eau. Mais nous pouvons nous documenter, observer, regarder, écouter autour de nous et comprendre ce qui anime les gens aujourd'hui, ce qui les rebute, quels sont leurs besoins, leurs désirs. Nous le savons, nous vivons dans une société matérialiste, consumériste, sceptique, individualiste. Et ne nous leurrons pas, ces valeurs sont aussi présentes dans nos églises. Bon, pas ici bien sûr, mais dans la mienne. D'un côté, il y a mes voisins directs, qui me semblent ne pas avoir du tout besoin de Dieu. Ils ont tout. 3 voitures, une maison, une piscine, des vacances, la santé, des smartphones et madame cuisine bien. En tout cas, ça sent bon tous les jours. Pourquoi aurait-il besoin de Dieu? En tout cas, madame m'a dit spontanément que l'église, c'était pas trop son truc. Et de l'autre côté, il y a mes amis dans le village qui sont ouvertes à toutes sortes de pratiques bizarres. Porter des bracelets d'énergie ou des porte-bonheur, téléphoner à un rebouteux fribourgeois, faire du reiki, etc. Mais surtout pas la prière. Surtout pas les chrétiens, ces hypocrites moralisateurs. Surtout ne viens pas nous parler de ton Dieu. Pourtant, ces gens ont leur lot de souffrances. Qui un divorce? Qui un membre amputé suite à un accident? Qui une sclérose en plaques? Ou des ados qui vont mal? Depuis plusieurs années, tous les vendredis, je vais boire le café avec elles. Et j'essaye d'être moi-même et de les aimer. La confiance se construit très lentement, mais elle se construit. À l'université, ce printemps, une étudiante m'a dit que sa prof d'histoire, face à un auditoire de 500 étudiants, a affirmé que les évangéliques constituaient une secte. Les professeurs font parfois preuve d'arrogance face à la foi, comme si science et foi devaient nécessairement s'opposer. Ce n'est pas facile pour les étudiants chrétiens. Priez pour les vôtres, pour Lydiane, pour Eric, pour Anne, pour les autres aussi que vous connaissez. Ils font souvent face à un athéisme moqueur ou à un pluralisme qui exclut toute autre vérité que la sienne propre. J'aimerais soulever deux points qui me semblent essentiels, l'amour et la prière. L'homme libéré par Jésus lui est profondément reconnaissant. Il choisit de le suivre, de lui obéir. Il aime Jésus. Il aime aussi ses compatriotes, car il sait leur besoin d'entendre parler du Seigneur. Il sait que le mal est destructeur. Notre amour pour Jésus et pour ceux qui nous entourent est fondamental. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel, vous le savez bien. Mais nous pouvons le lui demander, cet amour. Il aime donner l'amour. Aimons ceux que nous côtoyons pour qui ils sont et aimons le Seigneur de tout notre être. Et puis la prière. Elle n'est pas forcément mentionnée dans notre histoire, quoique. Les gens du pays supplient Jésus de partir. Il part. Jésus veut sauver, mais il ne s'impose pas. L'homme libéré le supplie de le prendre avec lui. Jésus refuse. Oh mince, là ça vient bouleverser notre conception de la prière. Mais non, Jésus le fait entrer dans les voies du Père. Il a quelque chose d'encore meilleur pour lui que ce qu'il demande. Il fait de lui, en l'occurrence, un évangéliste en terre païenne. Jésus n'abandonne pas. Ces gens qui l'ont d'abord rejeté, il les aime. Alors il persévère et envoie son nouvel ami qui aura une histoire personnelle assez substantielle à leur raconter. La prière, donc. Dieu veut que tous soient sauvés. C'est une prière qu'il entend. Priez fidèlement pour nos amis, pour les membres de notre famille, pour les gens qui sont nos voisins. Prions pour que Dieu nous inspire. Avec quelques étudiants, nous avons prié tous les lundis matins, notamment pour les amis étudiants qui ne sont pas chrétiens. Prions pour être créatifs. Osons inventer des moyens pour que notre façon de communiquer l'Évangile soit pertinente, c'est-à-dire qu'elle ait du sens pour les gens qui sont autour de nous dans cette société. Les GBU de Montréal, dont on a un équipier ici, tiennent un stand chaque semaine à l'université. Et pendant quelque temps, ils ont mis un panneau avec une question. Si Dieu existait, quelle question lui poserais-tu? Et les étudiants viennent écrire leurs questions, qui en général tournent autour des questions existentielles. Pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal? D'où est-ce qu'on vient? Dans d'autres pays où les GB sont présents, ils organisent des conférences en lien avec ces thèmes. À Montréal, par contre, ce sont les contacts qu'ils ont eus au stand même, les discussions qui ont porté du fruit. Plusieurs étudiants ont été d'accord de participer à des études bibliques de découverte de la Bible, c'est-à-dire avec le but de voir ce que dit le document de base des chrétiens, c'est-à-dire la Bible, et non pas l'institution, donc l'Église, ce que dit la Bible au sujet de Jésus. Ici à Genève, il nous a semblé inapproprié de tenir un stand de ce type, mais on s'est dit qu'un sondage, ça passerait bien. parce qu'il y a plein d'étudiants qui font passer des sondages de toutes sortes. Alors on a créé un sondage assez simple qui nous a permis d'entrer en contact assez facilement avec plusieurs personnes et d'avoir des discussions parfois assez profondes. Et les gens étaient ouverts à parler de la foi chrétienne et à dire ce qu'ils en pensaient. C'était encourageant. Ici, vous avez osé vous lancer dans Marc l'expérience. C'est génial. Et continuez à prier pour les gens qui sont venus voir le spectacle. Et peut-être aussi, si possible, gardez le contact. Poursuivez. C'est une bonne nouvelle que de savoir que Dieu est proche de nous, qu'il fait attention à nous, qu'il est plus présent à nous que nous ne le sommes à nous-mêmes, qu'il est à l'œuvre dans notre vie. Cette bonne nouvelle-là fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. Elle peut se manifester petit à petit dans les moments quotidiens et ordinaires de nos vies, notamment dans les amitiés et les relations que nous avons. Parfois, ce sont de petits riens, un sourire, une parole douce, un regard compatissant, un service rendu, une oreille attentive à la présence de l'autre. Offrir notre présence bienveillante, c'est un don qui en dit long sur celui qui nous habite et qui nous envoie. Ce que je vous dis là ne témoigne pas d'une évangélisation explosive et puissante, n'est-ce pas? Mais qui sait? Peut-être bien qu'elle l'est, dans une société où l'on ne prend pas le temps d'écouter l'autre, de le regarder dans les yeux, d'entendre sa souffrance et ses soucis, de le rencontrer autrement que virtuellement sur Facebook. Il est vrai que la plupart des gens ne croient pas en un Dieu qui puisse transformer leur vie, parfois même dans les églises. Mais Jésus se préoccupait de ces petites choses ordinaires et quotidiennes. Il parlait de fatigue, de petits-enfants, d'héritage, de jardinage, de besoins quotidiens, de personnes qui en veulent à d'autres. Il était dans le concret de la vie de tous les jours et sa présence a transformé la vie de beaucoup. Il continue à transformer la vie des gens. Parfois, ce n'est pas spectaculaire, comme dans notre histoire. Parfois, ça prend un temps fou. Parfois, les gens semblent tellement fermés. Mais aucune situation n'est trop difficile pour lui. Aucune personne n'est trop éloignée de Jésus. Et l'histoire de Marc 5 en témoigne. Christ est en nous et nous sommes en lui. Il nous donne des idées, de l'audace, de la liberté, du courage. Si cet homme-là qui était dans un si piteux état et qui a rencontré Christ est devenu libre, puis évangéliste dans sa terre païenne, nous aussi à notre échelle, avec nos petites graines de moutarde, même toutes petites, nous pouvons l'aimer et lui obéir. Et répondre à son appel, quel qu'il soit. Gardons courage, mes amis.